France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Les personnes LGBT qui demandent l'asile, elles doivent d'abord convaincre qu'elles sont bien LGBTI+. Et donc, doivent raconter leur histoire. C'est très compliqué pour des personnes dont la survie a dépendu justement de cacher leur intimité, de cacher leur histoire.
À partir du moment où l'homosexualité n'est pas pénalisée au sens de la loi dans le pays d'origine, le juge a tendance à dire « c'est à la personne de prouver ses craintes ».
Franchement, je me sens mieux en France que quand j'étais au pays. Si je me demande si je suis lesbienne, je dis oui. Oui, je sors avec une femme, je suis contente, je suis fière.
En Afrique, 31 pays pénalisent l'homosexualité. Les relations entre personnes de même sexe peuvent valoir des amendes, de la prison, voire la peine de mort. C'est le cas au Nigeria, en Mauritanie, en Somalie et depuis 2023 en Ouganda. Dans ces pays, les personnes LGBT vivent donc cachées. Et si leur orientation sexuelle est révélée, elles subissent humiliation, violence et mise au ban de la société. Faire le choix de l'exil n'est pas pour autant facile. Les discriminations, voire les violences, se répètent dans les pays traversés. Et pour ceux qui viennent jusqu'en Europe, l'arrivée peut être synonyme de désillusion. En France, la procédure de demande d'asile est longue et complexe, et dans un contexte de politique migratoire de plus en plus restrictive, les migrants LGBT se retrouvent sur le grill, pressés de répondre à des questions intimes s'ils veulent convaincre du danger qu'ils courent dans leur pays du fait de leur orientation ou de leur identité sexuelle. En cas de rejet de leur demande par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il faudra encore se mettre à nu devant la Cour nationale du droit d'asile et affronter de nouveau le soupçon. Le douloureux parcours des demandeurs d'asile LGBT, c'est un reportage signé Lise Verbeck. Bonjour Lise.
Bonjour.
Pour RFI et France Culture, vous avez rencontré des demandeurs d'asile et aussi les interlocuteurs auxquels ils ont affaire à leur arrivée en France. Dans quelles conditions est-ce que vous avez pu recueillir la parole d'exilés LGBT ?
Alors c'est grâce à l'association Flash Our True Colors à Amiens que j'ai pu donc rencontrer et recueillir ces témoignages de demandeurs d'asile LGBT. Mais les conditions des interviews n'étaient pas toujours simples. Certains vivent dans des centres de demandeurs d'asile où les journalistes ne peuvent pas forcément aller. D'autres habitent en colocation avec des compatriotes qui ne sont pas forcément au courant de leur homosexualité. Donc il a fallu se cacher ou faire les interviews dans un endroit discret, mais pour autant suffisamment sécurisant pour que les personnes puissent se confier. Ces exilés ont tous demandé l'asile au motif spécifique de persécution en raison de leur orientation sexuelle. Il y en a qui l'ont obtenu, d'autres qui sont encore dans le processus. Et petit avertissement, les témoignages dans le reportage peuvent être difficiles à entendre.
Le géographe Florent Chaussière est en studio avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur postdoctoral à l'Institut Convergence Migration et en 2022, vous avez soutenu une thèse à l'Université Gustave Eiffel sur les expériences vécues de la migration et de la demande d'asile par des réfugiés LGBT+ en France. Vous pourrez donc compléter le reportage de Lise Verbeck qu'on va écouter tout de suite. C'est dans une petite ville de Picardie que Lise a fait sa première rencontre dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
Vous allez bien ?
Un peu mieux ce matin.
Oui, c'est vrai.
Jean-Joël est camerounais. Dans son pays, l'homosexualité est punie de 5 ans d'emprisonnement, considéré par l'État comme une menace pour la sécurité publique.
Au Cameroun, ça ne s'est vraiment pas bien passé. Ça s'est très très mal passé. Au niveau de ma famille, c'était la catastrophe. C'était de l'abomination. Papa, maman, tous mes oncles. Donc, ils ne croyaient pas. Premièrement, ils disaient que quand la nouvelle est arrivée, dans leur idée, une frange disait que je suis entré dans une secte. D'autres qui disaient que non, c'est un mauvais esprit qui habite en moi et qu'il faut à tout prix le délivrer. D'autres appelaient ça la pédophilie. Bon, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle l'homosexualité et ils confondaient tout.
Donc, c'est vous qui avez dit que vous étiez homosexuel ou ils l'ont découvert ?
Ils l'ont découvert à travers ma grande sœur parce que je me suis fait arrêter avec un de mes copains et j'ai été emprisonné, j'ai fait la cellule quoi. Et c'est le commandant de brigade qui a demandé qu'on appelle les familles. Là, je donne le numéro de ma grande sœur. Bon, c'est à travers cela que ma grande sœur informe la famille.
Et donc, vous aviez quel âge à l'époque ? Et là,
j'avais 21 ans.
Et jusqu'à l'âge de 21 ans, vous aviez réussi à vous cacher?
J'ai réussi à cacher parce que dès 17 ans déjà, je savais déjà que ça n'allait pas. C'est une mauvaise chose parce que à côté de moi, dans mon quartier, quand j'avais 15-14 ans, j'avais vu un garçon qui avait le nom d'une fille. En fait, on l'appelait Adeline, juste parce qu'il était homosexuel. Donc, on l'appelait Adeline et je voyais le rejet de la société face à cette personne. Je pense que plus tard, cette personne l'avait trouvé mort au niveau d'une rigole le matin. Il avait été empoisonné. Parce que quand il passait, on tapait. Quand il vient passer au niveau de ta cour, les mamans sautaient, on tapait. Ne passe pas au niveau de mes cours, au niveau de ma cour. Tu as la poisse, tu es poisseux et tout. Donc c'est comme ça. Donc à un moment, on l'avait empoisonné. Donc je voyais déjà un peu le rejet à travers cette image-là qui est dans ma tête. Et je me disais que moi, donc on va aussi me traiter pareil. Quand ma famille sera au courant, donc j'essaie donc de vivre un peu en cachette. Mais avec ce poids-là dans ma tête.
Lorsque sa famille découvre son homosexualité, il est battu violemment. Son corps en garde encore des séquelles aujourd'hui. Il est envoyé chez un marabout.
Là, j'avais peur parce que je me disais, en allant chez le marabout, c'est une façon d'aller me tuer en brousse. Parce que le monsieur travaille en brousse, en forêt. Donc quand tu pars là-bas, tu ne sais pas, vous partez la nuit, tu ne sais pas où tu pars. Bon, voilà. Et puis, parce que beaucoup d'homosexuels quand même disparaissent comme ça. Là. On dit, on t'amène chez un marabout, on part te traiter, tu ne reviens plus. Donc, je suis arrivé là-bas, on est resté la nuit, le monsieur sort, il me prend, il me met au milieu d'une cour, sous les arbres, dans une forêt, il met un cercle de 12 bougies rouges, il me place là, il prend le poulet, le coq, il retire avec ses propres mains, il retire le cœur, il déchire, il retire le cœur, il me demande d'avaler. Ça en suivait le traitement, il a fait préparer le coq là avec certaines écorces là et tout. Ça que je devais manger. Donc, je devais manger ça dans ce cercle de 12 bougies sans jamais casser un os. Là, je devais manger tout le coq là avant le lever du soleil. Maintenant, voilà. Le traitement, maintenant, ça s'alternait. Chaque matin, il y avait un eau là que je devais m'asseoir dessus en récitant certains versets bibliques. Le psaume 50, c'est pardonne-moi car j'ai péché, purifie de mon sang parce que j'ai fait ceci, gna gna gna. Je devais réciter ça chaque matin, étant dans l'eau là. Il y avait une autre eau que je devais faire le lavement. C'était un peu mon quotidien là-bas.
Après un mois de calvaire, Jean-Joël est marié de force. Mais il continue à voir son compagnon et il est jeté en prison plusieurs fois. Il décide alors de fuir le Cameroun pour survivre. Bonjour, c'est Élise. D'accord, à tout de suite, merci. R7 a elle aussi été mariée de force quand sa mère a appris qu'elle était lesbienne. La démarche nerveuse, R7, congolaise de 26 ans, nous emmène dans le studio où elle vit depuis quelques mois dans une résidence pour demandeurs d'asile à Amiens. Sur son lit défait, un ours en peluche et sur la petite table, des bons pour les restos du cœur, quelques médicaments. Elle a accepté de raconter son histoire sous un prénom d'emprunt.
Il fallait se marier pour pouvoir me faire oublier les esprits que j'avais. Et j'ai resté là-bas et les messieurs me maltraitaient. Ils me frappaient et c'est très difficile pour moi.
Ça a duré combien?
Ça fait beaucoup de temps. De 2015 jusqu'à 2018. C'était pas facile et je ne pouvais pas changer ce que je ressens pour des personnes du même sexe que moi. J'avais encore tombé amoureuse d'une deuxième femme. Elle est là, il montrait ça. On s'est aimé, elle venait, moi aussi j'ai parti la voir. Alors jusqu'à ce que la personne que j'appelle mon mari, il s'est raconté ça. Il me menace et voilà. J'avais tenté de me suicider parce que j'en ai assez. J'avais essayé deux fois, mais ça n'a pas tenu. Et voilà, jusqu'à ce que j'avais fui. J'ai quitté l'endroit où j'ai resté à Kinshasa. Je suis venue à Kikwit à Kikwit aussi, je ne pouvais pas aussi retenir mes sentiments. J'ai continué toujours. Et là-bas, c'était encore pire. Parce que c'est dans une province. Alors, la province, c'est pas comme... comme la grande ville. Donc, ils ont la possibilité de vous repérer et de te faire du mal. Alors, j'étais vite interpellée par des chefs de quartier et me faire attention et des agressions, des violences sexuelles et verbales et des accusations fausses contre moi, des menaces et des injures et des humiliations et encore des routes, c'était pas du tout facile. En tout cas, je courais déjà à la mort.
R7 fuit en Angola, puis en Europe. Elle n'arrive pas encore à poser des mots sur ce qu'elle a vécu lors de cet exil.
Des fois, je pleure, je craque, je me pose tas de questions qui n'ont pas de réponse. Donc, c'est pas facile.
Est-ce que vous êtes aidée par un psychologue, par exemple?
Oui, je suis accompagnée par un médecin psy et une psychologue. Ça m'aide beaucoup. J'ai fait des traitements. D'ailleurs, c'est à cause de ça que c'est un peu des... En fait, je me reviens, quoi. Auparavant, et je ne comprenais rien. Donc, je vois et ça passe. Je me demande, je ne sais pas.
Là, ça va un petit peu mieux avec les médicaments, ça vous aide?
Ouais, ça m'aide. Avec l'alcool aussi, j'ai calmé parce que j'ai bu beaucoup. L'alcool, c'était une amie, c'est une amie fidèle pour moi. C'est pas facile, mais on s'est bat.
Ouais. Je vois que vous avez quelques médicaments sur votre table. C'est les médicaments qui vous aident à aller mieux?
Oui, ce sont les médicaments que je prends tous les jours. Je me réveille et c'est ça. Ça, c'est pour l'alcool. Et ça, c'est pour le stress. Il y a ketchupine pour les sommeils les soirs. Donc je prends matin, midi, soir. Voilà.
Kilometre mi malesi manayo ozongandako na bonde la bolingo nanga.
Voilà. C'est une femme qui parle de son mec.
Ça parle d'amour entre un homme et une femme.
Oui.
Et vous écrivez d'autres choses sur vous, votre histoire ou...
Pour mon histoire là, je peux encore écrire parce que c'est... En fait, ce sont des traits qui...
Il faut les sortir tout doucement.
Voilà.
Ils sont encore là.
Qui veut faire. Donc, je dois prendre le temps d'abord pour digérer et pouvoir voir comment surmonter ça. Mais sinon, c'est pas facile.
Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous arriverez à écrire une chanson sur ce qui
Bien
est
sûr.
Arrivé?
Bien sûr.
Voilà, je me dis, je sais pas...
On retrouve Jean-Joël. Le Camerounais garde lui aussi des séquelles. Quand il marche dans la rue, il regarde toujours derrière lui pour voir s'il n'est pas suivi. La nuit, des cauchemars le hantent. Il voit surtout un visage, celui de la femme enceinte que les passeurs ont abandonnée, seule, à bout de force, au milieu du désert. Après plusieurs mois, Jean-Joël arrive enfin au Maroc. Il veut poursuivre sa route vers l'Espagne, mais il reste bloqué dans le pays pendant 2 ans.
Aucun passeur ne me mettait dans son zodiaque parce que quoi? Ouais, tu as la malchance sur toi. Tu vas aller faire chavirer le zodiaque dans la mer parce que tu es poisseux. En fait, c'est comme ça que tu es vu. Tu es vu comme une personne à part. Donc ça veut dire que je ne vais jamais traverser. Et quand je marche, je dois éviter les Camerounais. Parce que quelqu'un peut venir te poignarder.
Comment vous avez fait alors?
Ben voilà, il fallait s'adapter. Je suis allé au sud du Maroc, vers Agadir. J'ai commencé à travailler la tomate là, où j'ai épargné un peu de sous. J'ai acheté mon petit zodiac de 6 places. suis venu à Tanger, c'est avec ça que j'ai pu mettre sur la mer dans le détroit et prendre quelques gars sénégalais qui maîtrisent un peu l'eau pour pagayer et tout. Il ne fallait pas prendre les gars camerounais parce qu'ils connaissaient déjà. On a mis le truc en la mer, on a pu s'échapper à la vigilance des gars de côté et tout. On arrive donc en Espagne.
Après l'Espagne, Jean-Joël arrive en France. Il a obtenu sa demande d'asile il y a quelques semaines. Il a été accompagné par l'association amiénoise Flash Hour True Colors.
Alors, je suis Timothée Kound et je suis bénévole au sein de l'association Flash Hour True Colors où j'accompagne les personnes migrantes LGBT. Alors, ça a commencé en 2019 quand on a été contacté en fait par une assistante sociale qui accompagnait une femme lesbienne d'origine étrangère qui ne parlait qu'anglais. Et donc, j'ai reçu un appel sur le téléphone de l'association. On m'a demandé, j'ai une dame, est-ce qu'il est possible éventuellement de l'accueillir? Elle ne parle pas français. Je lui ai dit, moi, il n'y a pas de souci. Oui, je parle anglais, je l'accueillerai volontiers. Et puis, c'était dans ma réflexion, c'était aussi quelque chose qui pourrait lui faire du bien de créer des contacts. Et voilà, c'est à partir de ça qu'a commencé tout l'axe d'accompagnement des personnes d'origine étrangère.
De quel pays viennent les personnes que vous accompagnez en général ?
Alors, on a essentiellement des personnes des pays d'Afrique centrale et d'Afrique du Sud et d'Afrique de l'Ouest. On n'a pas beaucoup d'Afrique de l'Est. J'ai aussi eu l'occasion d'accompagner des personnes du Moyen-Orient et un petit peu aussi d'Asie du Sud-Est.
Qu'est-ce que vous faites pour les accompagner ?
Déjà, créer des cadres dans lesquels les personnes sont accueillies, parce que résultat, ça évite le repli sur soi, qui est un danger très grand chez les personnes migrantes qui sont souvent aussi sujets à des syndromes post-traumatiques et des choses comme ça. On crée des espaces où les personnes ont la possibilité aussi de parler de leur histoire, que ce soit en individuel. Ça permet des fois aussi de mettre des mots sur les violences qu'elles ont pu subir, que ce soit intrafamilial, sociétal. Enfin, j'ai entendu des histoires de torture, d'exorcisme, de viol. Et en fait, ça peut être important aussi de créer l'espace pour que les personnes puissent en parler.
Bonjour.
Oui, bonjour, c'est Lise.
Oui.
Je suis en bas.
Ah, ok, j'arrive. J'étais aussi dehors pour faire sortir ma poubelle.
D'accord, à tout de suite.
Merci.
C'est au sein de l'association, dans ce cadre sécurisé et rassurant, que Brège a réussi à évoquer pour la première fois ses traumatismes.
Vous allez bien ?
Brège vit en colocation avec d'autres migrants qui ne sont pas au courant de son homosexualité. Alors pour raconter son histoire, nous nous mettons dans un coin du salon, le plus loin possible des chambres. Brège est originaire de la République démocratique du Congo. Après avoir vécu des violences, des brimades, des humiliations, il s'est retrouvé en Turquie, forcé de se prostituer.
Nous sommes arrivés dans un salon comme ça et j'ai trouvé des photos un peu bizarres ces jours-là. Je vois des personnes ensanglantées dans les photos. Je vois une personne qu'on lui a pendu au cou, on lui donne l'argent. Je vois les chicottes, les fouets, les masques à gaz. J'avais peur. Il me dit non, il ne faut pas avoir peur, ce sont les instruments de travail, on travaille avec ça. Et puis elle me présente une femme qui s'appelait dominatrice, elle était mince comme ça. Et la femme, là, il fallait passer des rapports avec lui, mais c'était vraiment compliqué. Et tout ce qu'on faisait, c'était filmé. Il y avait des bougies comme ça, on nous faisait mettre des bougies au corps. Tu ne vas pas te brûler, mais tu vas te sentir un peu des douleurs. Elle portait un gros pénis comme ça, on appelait ça God Sentier. Il est en train d'être, la femme est en train de faire des rapports sexuels avec une grande violence. Il y a des fois, on faisait des rapports sexuels avec des gens que tu ne connais pas, non protégés. Il y avait même un certain moment, on faisait comme des tables. Il faut que tu sois comme une table, tu fais comme ça. Et la dominatrice met ses pieds comme ça, il filme, il mange. Tu es comme une table allongée.
Il mange sur vous.
Oui, moi, c'est moi. Tu es là, il y a des fois, tu es comme un chien parce qu'on portait des masques et des chiens. On t'attache avec les.
Les
stress.
Ouais, et puis tu es tenté de manger dans une petite assiette comme un chien. Il faut aboyer. Il y avait les responsables s'appelaient Kabir et Viraj. Ce sont des Indiens. Donc chaque personne amenait ses escort boys. À des fois, nous sommes amenés dans une pièce. On a écrit garçon à louer, rent boy. Et puis, une personne vient avec les mains dans la poche, ils vous prennent. Donc c'était compliqué.
Ça a duré combien de temps en Turquie?
Une année.
Un an, ouais.
Un an, ouais, à peu près, ouais.
Brej parvient à s'enfuir de Turquie, passe par la Grèce, puis arrive en France. Il y a rencontré son compagnon, lui aussi réfugié. Son regard triste s'illumine d'un seul coup lorsqu'il parle de lui.
J'ai risqué à plusieurs fois la mort, mais donc je suis une personne qui a survécu au-delà de tout.
Et est-ce que du coup maintenant, avec votre conjoint, vous n'avez plus peur de vous cacher?
Non, non, il y en a plus. Il y en a plus, franchement. On vit dans une liberté totale partout et en toute fierté. Ça, on n'a pas peur.
Vous êtes amoureux?
Trop amoureux. Trop amoureux même, parce que c'est ça qui me manquait pendant toute ma vie. Avant, moi, je pensais que l'autre homosexuel, c'était vraiment une dérive, parce que je voyais comme si c'est moi qui étais... Bon, c'est moi aussi ici que j'ai compris que nous sommes une minorité. C'est ça qui fait aussi qu'on veut que tu restes longtemps dans les placards et c'est ça qui augmente aussi là. Mais j'ai aimé la France et je ne sais pas si aujourd'hui la France m'est protégée. Je ne sais pas ce que j'aurais donné à la France par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie.
La demande d'asile de Brej a été refusée récemment. Il a déposé un recours. Les demandeurs d'asile passent un entretien avec un officier de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, où ils doivent expliquer pourquoi ils ont quitté leur pays et réussir à nommer leur intimité. L'ARDIS, Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour, les prépare pour ce premier entretien. Audrieux, la coprésidente.
En fait, les personnes LGBTI qui demandent l'asile, elles doivent d'abord convaincre qu'elles sont bien LGBTI+. Et donc, pour soi, elles doivent raconter leur histoire. C'est très compliqué pour des personnes dont la survie a dépendu justement de cacher leur intimité, de cacher leur histoire. Donc, c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'au pays, elles devaient rester cachées. Et ici, en France, elles doivent se dévoiler, elles doivent parler de leur intimité. Je pense que c'est un processus qui est difficile pour tout le monde. Moi, j'aurais aucune envie de parler de mon intimité, de la première fois que j'ai embrassé une fille ou de tout ce cheminement avec ma famille ou des choses comme ça devant un inconnu et de convaincre de la réalité de cette histoire. Enfin, c'est même peut-être un processus un peu absurde, mais du coup, c'est très difficile. C'est très difficile pour les personnes qu'on accompagne. Et là, le premier travail qu'on fait, c'est vraiment accompagner dans cette verbalisation du récit intime.
Jean-Fernand, Camerounais de 33 ans, a bénéficié de l'aide de l'association.
J'ai mon bénévole qui me suit particulièrement, Yuan. Voilà, ce monsieur vraiment très responsable et qui a cette attitude et cette habitude de pouvoir nous donner un coup de main. Voilà, c'est lui.
Comment il vous aide?
Oui, il te demande ton histoire, on discute, comment ça s'est passé, il te dit bon voilà. C'est comme ça que tu vas te tenir au niveau de l'OFPRA. Voilà comment tu vas tenir tes mots, tes paroles. Ne sois pas frustré, ne sois pas stressé. Sache que ce sont des personnes comme vous. On va juste te demander ton histoire et que tu vas la raconter, tout simplement. Il te donne beaucoup de conseils. Donc, il essaie de faire en sorte que tu restes toi-même. Voilà.
Vous essayez de chercher peut-être un cas, une pick-up.
Jean-Fernand est aussi très actif dans l'association Ardis, tout comme Aboubacar. L'Ivoirien a obtenu son statut de réfugié et il continue à aider les autres exilés pour les entretiens OFPRA.
On a environ 2 à 3 activités par semaine qui permettent à des personnes franchement qui veulent s'améliorer pour pouvoir trouver le verre, pour pouvoir trouver des techniques, parce que c'est comme un concours, tu as passé les trucs, c'est comme un, ça devient comme un exercice en fait. Donc il faut savoir, c'est comme des codes que tu dois comprendre, comment répondre à certaines choses. Et chaque demandeur d'asile a sa culture, a sa manière de faire. Par exemple, chez nous, en Afrique, en général, lorsqu'une grande personne passe, quand tu la regardes dans les yeux, on te traite impoli. Contrairement en France, ici, lorsqu'une personne parle, tu parles à une personne, tu baisses la tête, on se dit que tu mens. Donc souvent, ce sont ces petites codes qu'il faut comprendre pour pouvoir avoir un bon entretien et puis, à la suite de cet entretien, avoir un statut.
Les différences culturelles, oui.
Voilà, les différences culturelles, donc c'est ce que l'Ardis arrive à faire. Voilà pourquoi vous allez voir des ateliers, où il y a des ateliers en français, en anglais, même en bangladais, pour pouvoir permettre aux personnes de pouvoir s'exprimer. Moi, par contre, avec mon bénévole que j'ai, M. Laurent, il y a des personnes qui sont en barade, du là, en griffe, qui n'arrivent pas à comprendre, au fait. Donc j'essaie d'être comme un interprète. Donc je lui retranscris mot par mot ce qu'il dit. La personne me relate, moi je note et moi je fais un résumé pour que lui puisse bien comprendre son histoire, lui donner des conseils. Il passe par moi encore, je lui donne des conseils. Parce que expliquer une histoire de guerre ou de football, c'est pas pareil qu'une histoire un peu intime. Et souvent, on trouve en griffe des officiers qui sont un peu violents pour moi, parce que j'ai l'impression comment t'as couché, bon, c'est des trucs qui sont intimes, c'est pas besoin. Tu crois la personne à l'histoire, mais pas forcément savoir la couche à quelle. C'est un peu intime, même les hétéros, ils pensent pas qu'ils peuvent se mettre dans les quatre coins de la rue pour en parler, au fait. Voilà.
Depuis 2013, l'OFPRA a mis en place un groupe thématique orientation sexuelle et identité de genre. Les officiers chargés d'instruire les demandes d'asile ont tous suivi une formation, selon Adrienne Rodriguez-Cruz, chef de file de ce groupe.
On a aussi fait des ateliers sur des points de vigilance qui nous sont apparus comme importants à traiter pour identifier les difficultés des officiers de protection et puis les aider en fait face à ces difficultés.
Et quelles difficultés, par exemple ?
Dans certains cas, on va avoir des gens qui vont s'exprimer de manière très explicite, très crue, et ça peut être très déstabilisant pour un officier de protection qui sait qu'en même temps, il doit respecter la dignité humaine et donc il ne doit pas entrer dans des sujets qui seraient des atteintes en fait à la dignité des personnes. Et donc, il faut pouvoir appréhender ces discours-là, faire comprendre aux officiers de protection pourquoi on a ce type de vocabulaire. Dans certains cas, on a des personnes, par exemple, qui ont très peu de vocabulaire et dont le vocabulaire va être parfois insultant même vis-à-vis de leur propre orientation sexuelle, simplement parce que leur langue d'origine, du fait du regard en fait très négatif porté sur l'homosexualité et la transidentité, la langue elle-même ne prévoit pas un vocabulaire neutre. Et il faut que les officiers de protection soient préparés à cela, qu'ils l'acceptent, qu'ils l'accueillent, qu'ils éventuellement reviennent vers le demandeur d'asile ou la demandeuse d'asile pour lui demander pourquoi il utilise ce vocabulaire-là. Et tout ça, ce sont des éléments en fait qui sont importants à pouvoir appréhender, à pouvoir comprendre de manière à bien apprécier le plus justement possible la demande.
Parmi les demandeurs d'asile que j'ai rencontrés, quand ils sont passés devant l'officier de l'OFPRA pour raconter leur histoire, ils m'ont tous dit qu'il y avait une question qui était très difficile pour eux qu'on leur a posée. C'était à quel moment vous avez su que vous étiez homosexuel ?
Alors, à quel moment vous avez su que vous étiez homosexuel ? Alors, cette question, on ne recommande absolument pas de la formuler de cette manière-là. Alors, je ne vais pas contredire ce que vous ont dit les témoins que vous avez interviewés. C'est important de savoir que c'est un sujet sur lequel nous avons tout particulièrement travaillé en concertation avec des associations qui nous avaient fait un retour il y a quelques années déjà sur le fait que notre manière d'aborder la question de la prise de conscience d'une orientation sexuelle, d'une homosexualité, quelle qu'elle soit, en fait, cette question était posée de manière trop abstraite, elle n'était pas comprise par les demandeurs d'asile et les demandeuses d'asile, et donc ça ne donnait rien, en fait. Nous avons donc retravaillé sur cette question,
et de
ce qui est recommandé, alors justement, ce que nous recommandons, c'est d'aborder cette question de la manière à faire la personne restituer une situation ou des situations dans lesquelles elle s'est trouvée ou elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par une personne du même sexe. Ce qu'on demande aux officiers de protection, c'est de faire appel aux souvenirs des demandeurs de situations particulières. Mais si ce demandeur ou cette demandeuse ne parvient pas à identifier une situation particulière dans laquelle elle s'est sentie attirée par une personne, par exemple, et elle puis identifier cette personne en particulier, si le demandeur d'asile ou la demandeuse d'asile n'y parvient pas, nous recommandons aux officiers de protection de ne pas insister, parce qu'en réalité, ce n'est que le point de départ de l'histoire. Et le plus important, c'est ce qui suit derrière.
Les associations reconnaissent que les officiers de l'OFPRA sont mieux formés aujourd'hui sur les situations de vulnérabilité, mais pas encore suffisamment sur les questions d'orientation sexuelle. Maître Sophie Kéruel est avocate au barreau de Paris. Elle exerce principalement en droit des étrangers et en droit d'asile. Elle intervient au moment du recours à la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, lorsque l'OFPRA a rejeté la première demande. Cette audience devant les juges est la dernière chance pour les exilés d'obtenir une protection.
Est-ce que les juges ont connaissance du contexte du pays d'origine des personnes qui se présentent devant eux?
Alors, ils sont censés connaître le contexte. Après, dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Nous, on alerte quand même assez régulièrement sur, à notre sens, donc une difficulté dans l'actualisation des craintes. À titre d'exemple, pour la Côte d'Ivoire, par exemple, qui quand même est un pays qui malheureusement a connu donc une vague véritablement d'actes homophobes sur les réseaux sociaux depuis l'été 2024, qui a perduré pendant plusieurs semaines. Moi, lorsque je suis encore amenée à défendre des demandeurs d'asile ivoiriens, nous avons encore, dans le cas des rapports qui sont présentés au début d'audience, des rapports qui datent de 2015, indiquant que la situation en Côte d'Ivoire est en quelque sorte donc un Eldorado pour les personnes homosexuelles des pays limitrophes, puisqu'en 2015, il est vrai que nous avions une situation qui était moins critique en Côte d'Ivoire par rapport à d'autres pays aux alentours, mais on a eu une recrudescence des actes homophobes depuis plusieurs années. On a d'autres rapports, notamment le rapport de Lozard de juillet 2021. On a également justement ces différents contextes géopolitiques récents qui ne sont pas pris en compte et qui créent véritablement un problème, puisque le juge doit s'interroger d'une part sur l'existence d'un groupe social, c'est-à-dire en réalité, est-ce que cette personne est ou non homosexuelle, bisexuelle ou transgenre, etc. Et dans un second temps, est-ce qu'elle craint quelque chose en raison de cette appartenance à ce groupe social? Et si nous avons une actualisation qui n'est pas faite, eh bien, un juge peut aisément indiquer qu'il n'y a pas de crainte parce qu'on est homosexuel et que cette personne peut rentrer dans son pays. Donc ça, c'est un problème et c'est à nous, avocats, dans les cadres des recours au début de la procédure, mais également lors de l'audience, de souligner cela. Et à titre personnel, dans le cadre des préparations que je fais pour les demandeurs d'asile, je leur indique également les dernières actualités qu'ils connaissent de manière habituelle et qu'il serait bon qu'ils indiquent avec leurs propres mots lors de l'audience, oui.
Il y a d'autres pays qui pourraient justement ne pas être actualisés par...
Un certain nombre de pays, mais pareil, on a également, par exemple, la République démocratique du Congo, la RDC, où... les juges ne sont pas allés jusqu'à dire qu'il n'y avait pas de crainte dans ce pays, mais en disant, voilà, à partir du moment où l'homosexualité n'est pas pénalisée au sens de la loi dans le pays d'origine, le juge a tendance à dire, parce que l'homosexualité ou la bisexualité n'est pas pénalisée, c'est à la personne de prouver ses craintes. Et donc, si on n'arrive pas à montrer qu'il y a quand même une recrudescence, en tout cas un contexte homophobe, cela peut être un peu plus compliqué. Nous avons en RDC, nous n'avons certes pas de pénalisation d'homosexualité, mais depuis l'année dernière, et encore bien avant, mais particulièrement depuis l'année dernière, nous avons le ministre de la Justice qui l'a encore prospéré des discours de haine, indiquant une volonté pour lui de pénaliser, appelant les procureurs du pays à devoir donc sévir sur certaines situations qu'il qualifierait de troubles à l'ordre public, etc. Donc on avait un véritable contexte homophobe qui se développait et que nous citons de nouveau parce que cela n'est pas forcément indiqué là encore dans les rapports devant la Cour.
L'autre difficulté que l'avocate constate dans les dossiers, c'est l'accélération de la procédure, résultat de la nouvelle loi immigration de l'année dernière.
Auparavant, nous avions comme principe, qui est d'ailleurs un principe dans de nombreuses autres juridictions, de la collégialité. C'est-à-dire que nous avions donc ce principe qui permettait, sous, bien évidemment, sauf exception, on pourrait revenir dessus, mais en tout cas, sauf exception, à une personne demandeuse d'asile, eh bien, de pouvoir être entendue devant trois juges. Et qui disait trois juges disait également des délais de convocation qui étaient plus longs, c'est-à-dire que nous avions une convocation que nous recevions un mois avant l'audience, et cela permettait à la personne de davantage se préparer, de pouvoir continuer son travail auprès des associations et auprès, par exemple, de son avocat, de son conseil. Et à partir du moment où nous avons eu cette loi immigration, et plus particulièrement, nous sommes passés donc à ce stade de juge unique qui devient le principe depuis septembre 2024, et bien de facto, nous avons une accélération d'une part de la procédure, mais également et bien un raccourcissement des délais de convocation, ce qui fait que lorsqu'une personne, ou plus précisément son conseil, reçoit la convocation, nous avons 15 jours pour la préparer, étant précisé que de nombreuses personnes sont domiciliés dans certaines structures qui font qu'on ne peut pas forcément aller chercher son courrier tous les jours. Donc dès lors qu'on a une journée de passage, moi j'ai certains clients qui se retrouvent sans convocation proprement dite avant l'audience, on leur transmet naturellement, mais cela veut dire que si nous n'avons pas la possibilité d'avoir un avocat ou des intervenants sociaux, parfois ces personnes-là ne savent que quelques jours avant l'audience qu'elles sont convoquées tel et tel juge. Par contre, pour l'instant, on constate depuis septembre 2024, donc depuis maintenant 7-8 mois, qu'il y a une volonté à ce stade-là, hein, peut-être que ça va pas durer, des juges de maintenir pour la problématique LGBT cette collégialité. En tout cas, à titre personnel, dans mes dossiers que je traite quotidiennement, je constate qu'à ce jour, ça changera peut-être, mais depuis septembre 2024, je n'ai eu aucun dossier qui a été audiencé devant un juge unique. Donc pour l'instant, on a vraiment une collégialité, et donc un peu plus de temps pour se préparer, et également devant les juges, un moindre risque de l'arbitraire, puisqu'on sait que quand on a trois cerveaux, c'est quand même plus facile de pouvoir statuer de manière équitable que lorsque nous avons une seule personne, donc un juge unique qui statuerait sur l'ensemble de la problématique du dossier.
Ce long parcours de la demande d'asile, Traoré le connaît bien. Il a dû quitter son pays, le Mali, du jour au lendemain, après avoir été découvert avec son compagnon. Il est aidé par Flash Our True Colors à Amiens, et on le retrouve chez Timothée, de l'association. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, l'association ? Qu'est-ce qu'elle vous permet ?
L'association, c'est ma famille en France maintenant. C'est la famille, c'est ma famille. J'ai plus personne d'autre ici. C'est ma famille. Depuis que j'ai rencontré cette association, je me sens bien dans mon pot. Je me sens vraiment bien parce que j'ai plein d'amis maintenant que je n'avais pas. J'étais tout seul dans mon coin. Je n'avais pas d'amis, je ne sortais pas, tout ça. Donc, avec l'association, on fait des soirées, on fait des sorties, on fait des cinémas. Tout ce qui est la vie normale, on fait. Donc, je me sens très, 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 très à l'aise maintenant avec l'association Flash. Voilà. Ils sont devenus ma famille.
Et du coup, vous n'avez plus à cacher votre homosexualité quand vous êtes dans l'association ?
Oui, quand je suis dans l'association, je n'ai pas à cacher. Ça me fait du bien. Mais quand je quitte là, j'ai un autre problème encore, si vous voulez, je vous explique. Depuis ma procédure, la France ne me donne pas l'aide, au fait. Comme logement, comme l'argent de poche, comme je suis malien, j'ai croisé des Maliens qui travaillent déjà, qui ont leur maison, tout. Ils m'ont hébergé. Depuis un moment, j'étais chez eux. Il y a l'un de leurs sœurs qui est avec, et souvent, ils prennent mon téléphone. Il a vu plein de choses dans mon téléphone. Ils ont su, maintenant, ils ont su que non, je suis gay, nanani, nanana, d'accord.
Ils n'ont pas accepté.
Ils m'ont viré de chez eux. Ils ne parlent plus avec moi. Voilà, on est devenus vraiment des ennemis.
Et la personne chez qui vous êtes aujourd'hui, qui est du Cameroun, c'est ça ? Est-ce qu'elle sait que vous êtes homosexuel ?
Il ne sait pas pour le moment, mais c'est un bon ami à moi pour le moment. Bon. Et c'est pas bon. Je ne veux pas qu'il sache pour le moment.
Depuis qu'elle est en France, Aurora, elle, ne se cache plus. L'Angolaise de 23 ans est arrivée en Picardie sans parler un mot de français. Aujourd'hui, elle étudie à la fac et elle a une compagne à qui elle donne la main dans la rue. À la dernière marche des fiertés l'été dernier à Amiens, elle était dans le cortège.
C'est ici, c'est votre studio.
Bah oui, ça c'est un studio de 12 mètres carrés, donc pousse.
De la fac, ouais.
De la fac, ouais. Je pense, pour moi, c'est le plus beau appartement que j'ai déjà eu depuis que je suis en France. Et franchement, j'aime mon appartement. Je suis à l'aise. Je fais tout ce que je veux ici. Je reçois de visiteurs. Il y a mon frère, ma soeur qui vient. Il y a ma copine qui vient. Il n'y a aucun souci.
Puis je vois les drapeaux aussi LGBT, là.
Ah, j'ai des drapeaux partout. Hein. J'ai le gros drapeau peint là-bas. Le petit drapeau LGBT, c'est à ma copine. Mais je suis lesbienne, ça me manque le drapeau de lesbienne, mais je ne sais pas où poser le drapeau. Du coup, je n'ai pas pour l'instant.
Il n'y a plus de place.
J'ai plus de place.
La marche des fiertés, qu'est-ce que ça vous a fait de marcher dans la rue en revendiquant haut et fort votre homosexualité?
Ah, c'était trop bien. J'avais tellement peur de ça va se passer quelque chose, parce que normalement, on a les vidéos des autres pays qui, quand il y a une marche des fiertés, il y a toujours des gens qui ne sont pas bienvenus. Ça se passe toujours un truc mauvais. Mais quand j'étais là, je sentais vraiment, c'était waouh. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis à l'aise, il n'y a personne qui me regarde mal. Je porte mon drapeau, personne ne dit rien. Il y a des gens qui me saluent même quand on chante et on écoute de la musique. Je me demande, bah, attends, est-ce que c'est ça d'être fière de soi-même? Est-ce que c'est ça d'être LGBT dans un pays qui accepte les LGBT? Est-ce que c'est comme ça que moi, je dois me sentir avec moi-même? Du coup, c'était vraiment un zoom à l'intérieur de moi-même en réfléchissant. Bah, en fait, je suis bien là. Je suis bien, je suis bien et je ne veux pas sortir parce que je me sens bien ici. Franchement, je me sens mieux en France que quand j'étais au pays. Les gens me demandent, bah, est-ce que vous sortez ensemble avec quelqu'un? Moi, je dis oui, je sors avec une femme. Je suis contente, je suis fière. Et après, bah, je m'en fous ce que les gens vont penser. C'est sans penser. Moi, j'ai mon pensée et je suis fière de moi-même, quoi.
Et est-ce que vous diriez que la Aurora d'Angola est complètement différente de la Aurora de France?
Ah, beaucoup, hein. Ah, mais beaucoup, tellement différente. Là, en Angola, j'arrivais pas à sortir de chez moi pour avoir des interactions sociales, à part l'église, la maison et la maison de ma copine, parce que c'était les trois endroits que mon père a connus, qui c'était possible de fréquenter. Mais là, l'Aurora qui est en France, bah, elle sort partout, elle connaît France de sud au nord. Ouah, j'ai fait tellement de choses ici que j'ai jamais pensé avoir un jour faire en Angola, quoi.
Et est-ce que vous avez encore quelque chose qui vous rappelle l'Angola ou pas du tout?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Là, la seule chose que me rappelle l'Angola, c'est les plats que je fais pour manger quand je suis avec mon frère et ma soeur. Mais non, j'ai rien, ce qui me rappelle de mon pays. J'aime bien mon pays, mais j'aime pas les gens qui sont dans mon pays. On day and I rise up, I'll rise like the day. I'll rise unafraid, I'll rise up, and I do it a thousand times again. And I'll rise up.
Le douloureux parcours des demandeurs d'asile LGBT, c'était un reportage de Lise Verbeck avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage. Aurélie Kiefer.
Le géographe Florent Langos-Chaussière, chercheur postdoctoral à l'Institut Convergence Migration, est l'invité de ce grand reportage. Alors, on ne dispose pas de statistiques officielles concernant les réfugiés LGBT, mais l'OFPRA et les associations s'accordent à dire que les demandes d'asile pour ce motif de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre sont en augmentation. Est-ce le signe de l'aggravation des discriminations dans les pays d'origine? Je pense en particulier au continent africain, dont
sont issus tous les témoins qu'on a pu entendre dans ce reportage ?
Oui, alors je pense qu'on peut mentionner deux facteurs de cette augmentation. La première, comme vous l'avez dit, c'est l'augmentation de discrimination dans certains pays selon deux dynamiques, puisqu'il y a des pays qui ont récemment mis en place de nouvelles lois qui vont accroître la pénalisation, donc par exemple l'Ouganda en 2023 qui avait mis en place une nouvelle loi pour introduire la peine de mort, ou le Ghana récemment. Mais il faut aussi avoir en tête qu'il y a des pays qui aggravent la discrimination des personnes sans forcément changer la législation, mais juste en l'utilisant beaucoup plus. Donc par exemple en Tunisie, il y a quand même récemment une vague de répression judiciaire des personnes LGBT+, et c'est pas uniquement le cas de l'Afrique, puisqu'on peut voir ça également en Russie, dans d'autres pays récemment, même aux États-Unis. Donc il y a déjà ce mouvement de détérioration des droits des personnes LGBT+. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi une augmentation de la connaissance de cette demande d'asile, qui est en fait une demande d'asile qui est assez récente dans l'histoire du droit d'asile. C'est fin des années 90 qu'en France, on a un premier statut sur ce motif, et que finalement, les personnes commence également à savoir qu'il est possible de demander l'asile sur ce motif-là.
Alors effectivement, le bouche à oreille fonctionne certainement. Pour autant, toutes les personnes LGBT ne vont pas faire une demande d'asile pour ce motif.
Oui, et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, donc certaines personnes sont au courant, mais certaines personnes ne le sont toujours pas. Souvent, l'asile, en fait, pour les personnes que j'ai rencontrées, est associé aux raisons politiques ou à la guerre. Et donc, les personnes ne projettent pas du tout l'idée qu'elles pourraient être protégées en tant que personnes LGBT+, notamment en raison des expériences qu'elles ont vécues dans leur pays d'origine, où certains m'ont confié penser qu'en fait, les LGBT+, étaient persécutés dans le monde entier. Donc, ils ne vont pas avoir l'idée qu'une procédure puisse potentiellement les protéger au regard du droit d'asile. La deuxième difficulté, c'est que même si certaines personnes peuvent avoir connaissance de cette possibilité, encore faut-il vouloir se saisir de cette possibilité-là. Et ici, il y a encore également plusieurs freins qui existent. Le premier, c'est que les personnes peuvent craindre l'administration, une administration même française. Tout le monde n'a pas forcément en tête l'idée que la France serait un pays des droits LGBT. Et donc, on se dit, si je vais voir une administration et que je dis que je suis gay, est-ce que je vais pas avoir des problèmes ? D'autres vont avoir peur, en fait, de la mise en visibilité que ça induit. C'est-à-dire que s'engager dans cette procédure, il faut le rappeler qu'une procédure qui peut durer plusieurs années, il faut en fait tenir le « je suis dans cette procédure sur ce motif de l'orientation sexuelle » et c'est potentiellement un risque d'être visibilisé si les personnes vous demandent bah, « qu'est-ce que tu fais pour régulariser ta situation ?» et si on annonce être en demande d'asile.
Donc l'Union européenne et la France en particulier ne sont pas spécialement perçus comme des endroits de liberté pour les personnes LGBT ?
Ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes qui ont vraiment cette image en tête, donc ils vont tout à fait associer l'Europe et plus spécifiquement la France à ces enjeux-là. Mais c'est vraiment pas le cas dans toutes les situations. Et il y a aussi des enjeux qui sont plus liés à des raisons personnelles de localisation, même si évidemment les personnes ne choisissent pas dans la grande majorité des cas, pas vraiment où elles vont arriver au fur et à mesure des trajectoires migratoires. Mais certaines personnes vont, par exemple, choisir d'éviter des pays où elles connaissent des gens, et notamment de la famille, qui peuvent être au courant de pourquoi elles ont quitté leur pays, ce qui va potentiellement les emmener à se reporter, si elles réussissent, vers un autre pays.
Voilà, pour éviter d'être à nouveau stigmatisé, en réalité. Ouais.
Et ça, c'est indépendant, ça peut être tout à fait en France ou en Angleterre. C'est pas une question de quel est l'état de la législation dans le pays d'arrivée.
Alors, cette procédure de demande d'asile est loin d'être une partie de plaisir, hein, on l'a entendu dans le reportage. Est-ce qu'il est possible de la mener à bout sans le soutien d'une association ?
Alors, à mon avis, c'est assez compliqué. Plus exactement, en fait, ça crée un gros filtre des inégalités entre les requérants. Donc, on l'a vu, on l'a très bien entendu dans le reportage, les associations, elles sont assez importantes pour aider les personnes, comme l'a dit Audrieux, à verbaliser. Donc, en fait, il faut habituer les personnes à parler de leur intimité, ce qui est une chose qui, en fait, n'est pas forcément évidente.
Et surtout pour des personnes qui se cachaient.
Oui, exactement.
Et donc, qui n'en parlaient jamais.
Qui n'en parlaient pas et qui... Enfin, on n'en parlait pas exactement plus dans les mêmes termes. Et moi, je pense qu'en fait, la préparation des associations, elle va même plus loin, parce qu'elle fait... Puisque comme les personnes vont dire, on va vous poser tel ou tel type de question, il faut que tu te prépares à répondre à tel ou tel type de question. La question de la prise de conscience de l'orientation sexuelle amène, à mon avis, des personnes à se poser des nouvelles questions inédites qu'elles ne se sont jamais posées. Donc en fait, ça crée une mise en cohérence du discours sur soi. Il faut se recréer à partir de quand j'ai pris conscience de ça, ça a été quoi les éléments marqueurs dans ma vie. Mais en fait, si on ne s'est jamais posé cette question, parfois ça peut être difficile d'avoir des éléments de réponse sur ce point-là.
Donc les associations apportent une aide précieuse pour monter le dossier et passer ce fameux entretien. Comment est-ce qu'il est perçu par ceux qui doivent s'y soumettre ?
Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de stress, puisque l'enjeu est de taille. Il faut quand même réussir à être régularisé. Les personnes qui n'ont pas la demande d'asile se trouvent de fait en situation irrégulière ensuite. Il y a ensuite un stress assez important sur le fait de parler de ces sujets-là. Et notamment, il y a un peu un conflit d'interprétation sur la question de l'intimité, puisque du point de vue des institutions, l'intimité à respecter se situe en fait la ligne rouge sur les pratiques sexuelles. On ne va pas poser des questions sur les pratiques sexuelles des personnes. Mais au-delà, on considère que les questions sont tout à fait légitimes. En fait, pour les personnes concernées, se voir poser des questions sur comment vous avez rencontré votre compagnon, à quoi il ressemblait, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez rencontré, où est-ce que vous vous voyez pour vous... Enfin, quelle stratégie vous mettiez en place pour vous voir ensemble sans éveiller les soupçons, c'est déjà en fait franchir l'intimité des personnes qui n'ont pas forcément envie de parler de ça à des personnes inconnues, dans un cadre officiel d'administration, dans un bureau.
Lise ? Et il y a la difficulté aussi quand les personnes ne parlent pas le français, quand il y a un interprète qui est là lors de l'entretien OFPRA, ça peut induire une difficulté supplémentaire avec l'interprète s'il n'est pas formé ?
Tout à fait. Donc il y a une crainte, et j'irai même plus loin. En fait, la question de la langue et de la traduction se pose en réalité même avant l'entretien avec les institutions. Pourquoi ? Parce que les dossiers dans lesquels on écrit le récit de vie doivent être rédigés en français. Et donc la difficulté, c'est qu'il faut trouver quelqu'un, quand on ne parle pas la langue, qui peut traduire ça. Et les personnes qui n'ont pas de soutien associatif ou autre vont se tourner spontanément vers des compatriotes. Sauf que dire à un compatriote toute la raison du départ peut poser des difficultés. Et j'ai déjà vu des situations où des personnes, en fait, s'auto-censurent et déjà, à ce stade, ne racontent pas toute leur histoire. Parce qu'en fait, il y a un filtre qui se fait rien que par le besoin de traduction. Et ensuite, lors de l'entretien avec les interprètes, il peut y avoir plusieurs problèmes. Le premier, c'est en fait une sorte, là aussi, d'auto-censure. Si les personnes identifient l'interprète comme venant du même pays, vont se dire, en fait, si je parle de ça, est-ce que ça va pas me poser des problèmes ? Je ne sais pas comment la personne va réagir. Pour les interprètes qui, j'imagine, n'ont pas été formés, j'ai déjà entendu des situations de personnes qui stigmatisent les demandeurs d'asile dans la langue d'origine pendant les entretiens, ce qui du coup ferme complètement la personne ensuite qui n'a plus envie de parler de ça. Et il y a aussi des difficultés de traduction où les termes de genre et de sexualité posent parfois beaucoup de difficultés pour l'interprète. Et ça crée des situations de quiproquo qui en fait ensuite nuisent à la bonne compréhension de l'entretien sur le parcours des personnes.
Donc il y a de l'autocensure, il y a des quiproquos, et puis donc on perçoit bien, vous le disiez, l'enjeu de cet entretien, c'est un peu comme un examen, voire même un concours, avec le passage devant la Cour nationale du droit d'asile comme une session de rattrapage. Mais donc la personne va vraiment essayer en fait de dire ce qu'on attend d'elle, et donc un récit crédible plutôt que le vrai récit de sa vie.
Là, c'est une distinction très intéressante entre le vrai et le crédible, puisqu'en fait, le crédible nécessite certaines normes de discours, et on peut tout à fait avoir une histoire vraie, mais si elle n'entre pas dans la norme du discours attendu, on ne va pas la considérer comme vraie. Et ça se pose à la question de la crédibilité, elle se pose à plusieurs niveaux, il y a plusieurs types d'attentes. Tout d'abord, il y a des attentes en fait, qui sont transversales à l'ensemble des demandes d'asile, donc il faut avoir un discours très précis, il faut préciser les dates, les lieux, même les sentiments, comment se sentent les personnes à tel moment, l'idée étant de plus j'incarne, plus ça paraît crédible. Dans une chronologie parfaite, ce qui n'est également pas donné à tout le monde, si en plus il y a des traumatismes psychologiques qui bloquent la remémoration des événements. La difficulté en plus spécifique pour les demandeurs d'asile LGBT+, c'est que tout ce récit très précis, il faut le faire sur des éléments intimes qui peuvent être difficiles à évoquer. Et ensuite, il y a tout l'enjeu des types de questions qui sont posées. Tout d'abord, la question de la prise de conscience. Non seulement il faut déjà réussir à répondre à ça, mais il y a quand même des attentes du point de vue de l'institution. Qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui n'est pas crédible? Et par exemple, une des difficultés de cette demande d'asile, c'est que comme on se focalise sur les persécutions et les personnes qui ont vécu des parcours très difficiles, on a tendance à attendre des discours de prise de conscience de l'orientation sexuelle qui sont très marqués par la souffrance, par la douleur. Il faut montrer que quand on s'est senti anormal, on a été malheureux, on comprenait qu'on était différent. Et du coup, qui sont des modes de subjectivisation qui sont tout à fait vrais dans certains parcours. Mais pour certaines personnes, en fait, elles ne se subjectivent pas forcément de cette façon-là. Elles n'ont pas forcément un rapport à elles marqué par la douleur, je suis différent, je ne suis pas normal. Et du coup, ça laisse peu de place à ce type de discours. L'autre L'autre élément charnière dans la crédibilité pour les institutions, c'est la question des prises de risques et des précautions. Donc en fait, on va attendre, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur comment les personnes ont fait pour vivre leur histoire d'amour sans être découvert par l'entourage. Donc ça va être des questions sur quelles précautions vous avez prises, comment vous avez fait pour rencontrer la personne, quand vous voulez vous voir, où est-ce que vous alliez, etc. Et donc il faut pouvoir raconter toutes ces précautions qu'on met en place, et à l'inverse, des éléments qui peuvent être perçus comme des trop grosses prises de risque du point de vue de l'institution vont remettre en cause la crédibilité du récit.
Prise de risque, c'est-à-dire que la personne se serait trop montrée par rapport au risque supposé dans ce pays.
Exactement. Donc par exemple, des personnes qui auraient pu embrasser un compagnon dans une école, ou qui auraient pu se tenir la main un moment, ou... en fait, ce qui est assez difficile, c'est que parfois les questions, le départ est lié à une découverte malencontreuse. Donc les personnes sont prises sur le fait, et des questions sur pourquoi vous n'avez pas fermé la porte à clé, pourquoi vous avez décidé de faire ça à ce moment-là, etc. Et du coup, il y a une injonction contradictoire, puisqu'il faut donner à la fois suffisamment d'éléments d'expérience vécue de l'homosexualité ou de la transidentité, mais en même temps, il faut justifier que tous ces éléments-là peuvent exister dans un contexte où les institutions vont se dire. C'est peu probable que tout ça puisse arriver dans un pays comme celui-ci.
Mais alors l'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il doit bien déterminer qui a besoin d'une protection particulière. Alors où est le problème selon vous ? Est-ce que c'est les agents qui ne sont pas suffisamment formés pour être plus subtils peut-être dans leurs questions ? Ou est-ce que c'est les critères qui ne seraient pas bons pour justement juger de la véracité d'un récit ?
Je pense que déjà on peut noter, et ça a été dit dans les reportages, que les associations ont connu, il y a eu une formation des agents et des agentes des institutions de l'asile. Il y a quand même une dizaine, une vingtaine d'années, il y avait des questions avec de gros stéréotypes sur l'homosexualité. On posait des questions, connaissez-vous débargués du Marais, etc. Donc il y a eu des formations importantes des institutions, ça c'est vrai. La difficulté, c'est qu'en fait la formation... En fait, sur l'histoire longue, ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, on s'est tellement focalisé sur comment bien interroger pour bien savoir et bien reconnaître l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, qu'on ne se pose même plus la question sur faut-il poser cette question et peut-on vraiment répondre à cette question en réalité. Et c'est ça la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment prouver l'orientation sexuelle et l'identité de genre d'une personne. En fait, c'est assez compliqué. Et donc, les formations, la formation des agents, elles permettent de changer... la normativité, la norme de la crédibilité, mais ça exclut aussi des personnes qui ne peuvent pas entrer dans ce discours qui est parfois difficilement accessible pour certains demandeurs d'asile.
Et pendant tout le temps de cette procédure, il y a une situation de ces demandeurs d'asile, une situation de grande précarité.
Oui, tout à fait. Et cette précarité, elle met en avant une sorte de grande tension qu'il y a entre eux. Au sein de cette procédure, la grande tension, c'est être invisible, être visible. Donc, au sein de l'institution, enfin, pour la procédure de l'asile, il faut être visible. En gros, il faut que les personnes reconnaissent qu'on soit LGBT+. À l'inverse, en dehors, en fait, la difficulté, c'est que cette mise en visibilité dans la procédure, elle peut contraindre les personnes dans leur quotidien ici. Pourquoi ? D'autant plus que les personnes sont très précaires matériellement. Et donc là, il faut rappeler quand même que les demandeurs d'asile, donc il y avait eu un exemple dans le reportage, c'est à peu près une personne, là je fais un chiffre très, très global, synthétique, mais c'est à peu près une personne sur deux qui n'est pas hébergée dans le cadre du dispositif national d'accueil, enfin à qui on ne donne pas un hébergement. Et donc ça augmente la précarité matérielle qui crée des situations de dépendance qui expose à l'homophobie. Les personnes sont rejetées parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, elles sont dépendantes de personnes parce qu'elles sont très déclassées matériellement.
Et précarité qui se poursuit parfois même après l'obtention d'asile, de l'asile. Merci Florent Chaussière. Lise Verbeck signait le grand reportage de cette semaine, Le douloureux parcours des demandeurs d'asile LGBT. Réalisation Annie Bro, à la technique Grégory Wallon, au web Caroline Beneteau. Merci comme chaque semaine à la documentation de Radio France. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.